Place Info. 20h-21h, France Info, les informés.
Nicolas Creusel.
Et bienvenue à vous toutes et à vous tous dans ce rendez-vous quotidien de débat sur l'actualité. On va parler évidemment des chiffres du chômage ce soir qui sont bons, se réjouit le gouvernement. 8,5% de chômeurs en France, catégorie A, c'est le plus bas niveau depuis 10 ans. La bataille est-elle vraiment gagnée? Moins de chômeurs peut-être, mais pour quel type d'emploi et quelles conditions de vie? Ces chiffres, est-ce une victoire pour Emmanuel Macron? Sa cote de popularité peut-elle remonter? Ça en fait des questions à poser à nos informés du soir. L'un de ses prédécesseurs, lui, tient d'ailleurs, se porte bien. Son livre cartonne en librairie, sa popularité remonte. On commentera ensemble le bel été de Nicolas Sarkozy, qui sera demain aux côtés d'Emmanuel Macron pour les cérémonies du débarquement de Provence. Il y a un an, le drame de Gênes, l'effondrement du pont Morandi, 43 morts. Quelles leçons en avons-nous tirées en France? Pourquoi faut-il toujours attendre un drame, un accident, pour qu'on se pose sérieusement ce type de questions? Et puis à 21h tout à l'heure, une femme au sifflet ce soir de la Coupe d'Europe Liverpool-Chelsea, Stéphanie Frappard, qui est aussi désormais arbitre en Ligue 1, une femme arbitre au milieu de 22 hommes. Qu'est-ce que ça change pour débattre de ces sujets? Une femme quand même, Judith Venrop, bonjour.
Bonjour,
bonsoir, journaliste politique au Figaro Magazine, et deux hommes de culture, Xavier de Namur, restaurateur, initiateur du printemps de l'alimentation durable. Bonsoir Xavier.
Bonsoir.
Et Jean-Michel Ribes, directeur du théâtre du Rond-Point, dramaturge, metteur en scène. Vous nous préparez d'ailleurs le retour de Palace, non pas à la télé, mais au théâtre, à la rentrée. Bonsoir Jean-Michel Ribes, merci d'être là. Bienvenue à tous dans Les Informés. Les chiffres du chômage sont donc tombés ce matin. Un léger recul pour le deuxième trimestre, 8,5% de la population active pour la France entière, selon les chiffres publiés par l'INSEE. C'est le plus bas niveau donc depuis 10 ans, depuis 2009. Pour la France métropolitaine, le taux de chômage baisse de 0,2 points également et s'établit à 8,2, ce qui représente 2,4 millions de chômeurs. La bataille est gagnée, c'est une question. Et avant de vous la poser, messieurs, dames, écoutons la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui, un peu plus tôt dans la journée, commentait ces chiffres.
Personne n'a de baguette magique pour résoudre le problème du chômage en 24 heures. Mais toutes nos réformes de fonds et nos actions de fonds contribuent à cette baisse régulière. Donc, il n'y a pas de fatalité au chômage de masse. On a encore un taux de chômage qui est élevé. Mais on a les premiers fruits, je dirais, des grandes transformations qu'on a lancées. On peut dire que c'est vraiment encourageant.
Alors, la bataille du chômage est-elle enfin gagnée, Judith Ventrob, le Figaro Magazine?
J'aimerais le croire, parce que c'est toujours une bonne nouvelle quand il y a des chômeurs en moins, et je m'en réjouis. Je constate néanmoins qu'avec un taux de 8,2, la France a un chômage supérieur au taux moyen de la zone euro, qui est de 7,5, et assez sensiblement supérieur au taux moyen de l'Union européenne, qui est de 6,3.
Et qui est deux fois plus élevé que celui de l'Allemagne, en gros.
Et en plus, effectivement, l'Allemagne est à 3,1. Et en Allemagne, précisément, les perspectives de croissance ne sont pas bonnes du tout. Elle est à zéro, là. Elle menace d'entrer en récession. L'Allemagne a une croissance plus forte et plus solide, mais plus fragile que la nôtre, parce que plus exposée aux exportations, parce que l'Allemagne est meilleure que nous en exportation. Ce qui veut dire que si l'Allemagne entre en récession, nous allons en subir le contre-coup. Donc il faut quand même relativiser ce qui reste une bonne nouvelle. Un, il faut relativiser. Et deux, il faut se rappeler que Emmanuel Macron, candidat, s'était fixé un objectif assez modeste, puisqu'il voulait abaisser le chômage à 7% à la fin du quinquennat.
Donc, alors, on verra tout à l'heure.
Déjà, c'était pas terrible.
Ce taux de 7% est atteignable, on en parlera un petit peu plus tard. Jean-Michel Ribes, bataille gagnée ou pas? On se souvient quand même que dans le quinquennat précédent, François Hollande s'est cassé les dents avec sa promesse d'inverser la courbe du chômage. Là, on sent un triomphalisme discret, enfin timide et prudent quand même de Muriel Pénicaud.
Écoutez, je ne suis vraiment pas un spécialiste économique, mais on peut dire qu'il vaut mieux qu'entendre qu'il y a 0,2% de chômeurs en moins que le contraire. Donc restons simplement dans la superficialité de cette annonce et réjouissons-nous de ça. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
Après, ça veut dire quel type d'emploi aussi. Quand le chômage recule, Xavier de Namur, un chiffre global, c'est pas forcément une réalité. Il y a des emplois précaires, il y a des besoins non pourvus, des chômeurs qui trouvent pas de travail. Enfin,
alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que dans les chiffres qu'ils donnent, il faut savoir quand même qu'ils ont changé un peu les critères de comment on s'inscrit au chômage, etc. Moi, je dis par expérience, expérience, en parlant avec des gens qui étaient au chômage ou des gens qui sont sortis, ils ont dit que Pôle emploi, ils étaient quand même là la plupart du temps pour bien les dégoûter. C'est-à-dire que même certains qui me disaient, c'est carrément, tu vas chez Pôle emploi, on dit, c'est carrément des fous. Alors, il y a une chose qui est claire, c'est que en dégoûtant les gens de s'inscrire ou de se mettre sur Pôle emploi, etc., effectivement, on les sort. Alors, est-ce que la réalité, c'est que c'est vraiment
est-ce
une vraie baisse?
Ils sont sortis des statistiques.
Ils sont sortis des statistiques.
Est-ce qu'il y a des chômeurs fantômes?
Voilà. On dit qu'il y a toute une partie d'un halo. Ils parlent de gens, j'ai vu ça. Ils parlent d'un halo de gens qui sont sortis, c'est-à-dire qui sont des précaires. Parce qu'en fait, qu'on voit derrière le mouvement des Gilets jaunes, etc., dans ce pays, c'est dû au fait que les gens sont dans une précarisation. C'est-à-dire ils vont travailler quelques heures, ils n'ont pas un vrai boulot. Et c'est ça qui se passe dans ce pays. Donc, on leur dit, vous allez bosser, mais vous avez des petits boulots le payer. Alors, même si on nous dit qu'il y a de plus en plus de CDI, peut-être, moi, je constate juste que dans mon secteur et dans plein d'autres secteurs, on a par contre un vrai problème. Et c'est là, c'est de faire rencontrer les gens qui sont du chômage avec des gens qui, avec
faire
des chefs d'entreprise.
Là, c'est un vrai problème. Est-ce qu'il y a une peur du CDI aussi, la peur de l'embauche? Parce que vous évoquiez, je dis de Ventrouble, l'Allemagne, c'est des règles de travail beaucoup plus souples qu'en France.
Oui.
Est-ce que nous, ici en France, on pourrait pas baisser les chiffres, faire baisser plus vite le chômage s'il y a plus de souplesse? C'est toujours ce débat.
Les études sérieuses, contrairement à une idée qui est volontiers propagée en France, y compris par des premiers ministres en exercice, je pense à Jean-Marc Ayrault, il y a plus de travailleurs pauvres en France qu'en Allemagne. Donc il faut arrêter avec cette légende des petits boulots
mais
merdiques.
On a des statuts qui nous protègent plus en France quand même.
Qui protègent plus les chômeurs aussi. Mais vous savez que la France a fait le choix du chômage de longue durée, un choix de couverture sociale importante, un choix d'amortisseurs sociaux qui nous protège en cas de crise internationale, mais qui nous empêche de profiter comme les autres de la croissance qu'il y a eu par exemple en 2017. Et à chaque fois qu'il y a eu des périodes de croissance, la France était à la traîne. On le voit aujourd'hui, j'ai rappelé les chiffres tout à l'heure, la comparaison. C'est ce système-là qu'il faut changer, en plus du système dont parlait Xavier de Namur, d'adéquation entre l'offre de travail et la recherche de travail, enfin le chômage et l'offre de travail. Ça, Muriel Pénicaud, il faut lui reconnaître, s'y est attaqué en s'attaquant à l'apprentissage, à la formation. On est encore très très en retard en termes d'apprentissage. Il y a aussi un problème de mentalité en France qui fait que on répugne toujours à faire suivre aux enfants des formations concrètes, pratiques, moins
valorisantes ou
moins valorisantes.
On va reprendre ce débat, si vous le voulez bien, juste après le rappel des titres, car il est déjà 20h10 et c'est toute l'info avec Thomas Bénèche.
Un incendie en cours dans l'Aude sur la commune de Montira, c'est au sud-est de Carcassonne. Le feu a déjà détruit 50 hectares, 150 pompiers sont mobilisés sur place. Aucune habitation n'est menacée, précisent les autorités. La compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis visée par une troisième enquête. Après deux ouvertes pour des violences vendredi dernier à Saint-Ouen, les dernières investigations portent cette fois sur un contrôle d'identité dans la même commune de Saint-Ouen le 30 mai dernier. C'est la plus importante saisie de cocaïne en France cette année, se félicite le ministre des Comptes Publics. Plus d'une tonne de cette drogue a été retrouvée dans la nuit de lundi à mardi sur le port du Havre. La marchandise était localisée dans un chargement de cœur de palmier, valeur estimée à la revente 74 millions d'euros. L'intersyndicale de General Electric à Belfort fixe un nouvel et dernier ultimatum au ministre de l'Économie. Il y a trois semaines, elle enjoignait Bruno Le Maire d'obtenir d'ici le 15 août la modification du plan social prévu par le groupe américain en France. Plus d'un millier d'emplois supprimés. Une demande restée pour l'instant lettre morte. L'intersyndicale compte remettre la pression à la fin du mois. La justice italienne inflige un revers à Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur. Elle suspend son décret interdisant les eaux territoriales italiennes aux navires humanitaires. Salvini riposte et annonce le dépôt d'un recours en urgence contre cette décision judiciaire. Le navire de l'ONG espagnole Open Arms, avec 147 migrants à son bord, fait route pour l'instant vers l'île de Lampedusa. Il fait toutefois savoir qu'il ne débarquera pas ses réfugiés de force.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Avec ce soir Judith Weintraub du Figaro Magazine, le restaurateur Xavier de Namur et l'homme de théâtre Jean-Michel Ribes. On continue notre discussion sur les chiffres du chômage. Plutôt bon pour ce deuxième trimestre 2019, le plus bas taux depuis 10 ans, 8,2% pour la métropole en catégorie A. Jean-Michel Ribes, vous vouliez rajouter quelque chose tout à l'heure?
Non, je voulais simplement dire que l'accusation perpétuelle du système français comme étant rétrograde, comme ne pouvons pas avancer, ça c'est bien. Quand on voit les livreurs de Deliveroo, quand on voit tous ces gens qui sont traités par un libéralisme sauvages, qui n'ont rien, qui n'ont même pas de quoi de protection. Ne parlons pas de l'Angleterre, où les gens ont plein de petits boulots. Alors, il n'y a pas de chômage, mais il n'y a aucune protection, aucune sécurité, etc.
Jean-Michel, c'est faux.
Oui, oui, mais moi, j'aime bien dire des choses fausses. Ça vous permet, après, d'être brillante et de dire des choses vraies. J'ai un ami qui a monté à Los Angeles une boulangerie. C'est la boulangerie française, c'est le Graal. Eh bien, les gens qui travaillent chez lui, eh bien, ne sont pas salariés. Il dit, c'est le raisonnement, moi j'ai investi beaucoup, vous venez, vous prenez votre part et vous êtes payé sur ce que vous faites avec, grâce à mon investissement. Alors, tout ce discours-là, je l'entends et ça fait moins de chômage, etc. Mais je suis pas sûr qu'on arrive au paradis comme ça.
Alors, on va poursuivre ce débat. Je vois que ça vous fait sourire, Judith. Et on va retrouver ce que vous disiez tout à l'heure, cet objectif d'Emmanuel Macron de 7%. 7%, c'est le plancher ou le plafond. Enfin, je ne sais pas dans quel sens on peut regarder les choses. Pour la France, écoutez l'avis de Bertrand Martineau, économiste à l'Institut Montaigne, qui, lui, voit bien la possibilité d'arriver à ce score, mais difficile pour lui, d'après ce qu'il dit, d'aller encore plus bas.
Pour aller plus loin et crever le plancher de 7%, qui est le plancher historique, on va dire, en France, depuis les années 80, ça va être un peu compliqué parce que les entreprises butent sur des problèmes de recrutement. Les entreprises ne voudront plus embaucher les chômeurs parce que les chômeurs n'auront pas les compétences requises. Les emplois qui sont créés sont quand même majoritairement des emplois qualifiés et la grande majorité des chômeurs n'a pas ces qualifications qui sont des qualifications élevées.
Voilà, c'est tout ce débat sur l'adéquation. Est-ce que vraiment les postes créés aujourd'hui sont des postes à forte qualité qui nécessitent des CV chargés? C'est surprenant cette analyse de M. Martineau, Xavier de Namur.
Oui, donc c'est un peu étonnant parce qu'en fait, là où on manque vraiment de main-d'œuvre, où il y a un vrai problème, ce sont dans des métiers où il n'y a pas vraiment de qualification. L'agriculture, alors moi, je ne veux pas dire que les agriculteurs sont pas, mais ceux pour ramasser des fruits et légumes ou de faire les vendanges en ce moment, on n'en trouve pas.
Les services à la personne.
Dans les services à la personne. Dans mon métier, c'est-à-dire que dans la restauration, il y a grosso modo plus de 100 000 ou 150 000 postes à pourvoir et tous les restaurateurs, qu'ils soient à Agen, qu'ils soient à Paris un peu moins, mais du coup, en province, etc. Ils ont énormément de mal à recruter. Donc, on a là un problème. C'est pas tellement, c'est un problème de donner envie aux gens de faire ces métiers. C'est clair parce que moi, j'essaye de créer dans mes entreprises un environnement qui fait que les gens restent. Moi, j'ai des salariés qui sont là depuis 30 ans. J'ai 100% de CDI. Ça veut dire qu'on peut y arriver dans les entreprises, mais il faut qu'elles tournent. Et là, ça marche. Alors, encore une fois, il y a aussi des secteurs, et on le dit pas dans le service public, parce que le service public devrait embaucher. Moi, j'ai ma sœur qui est née dans 52 ou 53. Elle est toujours infirmière à l'hôpital à Nice. C'est pas pour dire, mais il y a quand même un problème parce qu'ils trouvent pas de personnel dans les blocs, etc. Donc, on a un énorme bassin, enfin, d'emploi, mais on trouve pas. Et c'est ça le problème. C'est comment on arrive à motiver les gens, à leur donner envie d'aller dans ces métiers-là qui, au début, peuvent vous paraître être plongeurs, être commis de cuisine.
C'est pour ça que je parlais d'un problème culturel de l'ensemble de la société qui préfère parfois laisser les mômes dans des diplômes longs où ils ne s'épanouissent pas spécialement d'ailleurs, plutôt que de les inciter à aller vers des formations courtes où ils seraient assurés de trouver des emplois. Ce que dit Martineau est parfaitement vrai, hein, mais il y a en fait les deux problèmes coexistent. On a des besoins de gens extrêmement qualifiés et des besoins de gens très peu qualifiés.
Et pour les deux, finalement, les chômeurs se trouvent au milieu, peut-être.
Voilà.
Avec des qualifications plus générales et pas spécifiques d'un côté ou de l'autre.
Exactement.
Mais dans le modèle économique que vous citiez tout à l'heure et qui a un peu titillé Jean-Michel Ribe, c'est vrai qu'on a aussi peut-être envie, lorsqu'on a galéré pendant des années pour avoir du travail, d'avoir un vrai travail, un travail fixe. Alors c'est pas que la culture française, c'est tout simplement l'envie, quand on a une famille à nourrir, de se dire que ça peut pas s'arrêter en 15 jours, en 3 semaines.
Mais bien sûr, et puis c'est aussi quand même la culture française, quoi que vous en disiez, qui fait par exemple que quand vous cherchez un appartement, on vous demande des garanties qu'on ne vous demande pas dans des pays où effectivement les formes de contrats de travail sont beaucoup moins coulées dans le marbre, gravées dans le marbre.
Oui, non, mais je voulais une chose. J'entends tout ce que vous dites et c'est frappé au coin du bon sens. Mais il y a quand même une chose qu'il faut dire. Quand un jeune homme ou une jeune femme a 18 ans, il y a une part de rêve. Je suis sûr qu'il n'y a aucun mauvais métier.
Heureusement d'ailleurs.
Mais de se dire, on va arrêter nos études, on va aller plonger dans le restaurant, c'est bien, mais forcément, on n'a pas envie d'y rester toute sa vie. Donc, il y a une part de rêve, il y a une part d'aller plus loin, une part d'envie, comme disait Aragon, un peu de creuser des galeries vers le ciel. Et cet élan-là, eh bien, évidemment, ça empêche un certain nombre de métiers à être pourvus. Mais c'est assez beau. Et je dois dire que, quand vous parlez de la culture française, c'est Judith, je trouve que c'est ça qui manque. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quelque chose là qui est... quand vous entendez aujourd'hui les discours des hommes politiques, Macron, depuis qu'il est là, même s'il lisait du Molière dans les gares quand il se faisait élire, j'ai pas entendu un mot sur la culture, pas un. Si de temps en temps on va au théâtre, ça. Mais je pense que ça, c'est très important. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est de retrouver une cohésion à travers une espèce de culture qui nous relie. On parlera de pont tout à l'heure.
Qui nous émancipe aussi, d'ailleurs.
Et qui nous émancipe et qui nous permet d'ailleurs, et qui nous permet d'être créatifs et qui nous permet peut-être de sortir de ces analyses, soit d'emplois précaires, soit de trucs à longue durée. Il y a une troisième voie à inventer. Il y a quelque chose de créatif à faire, je crois.
Et puisque vous citiez...
si je peux me permettre de rebondir sur ce que je disais, je suis entièrement d'accord. Parce que dans l'entreprise, moi en tout cas, j'essaye dans l'entreprise de transmettre ce genre de choses. C'est-à-dire que tu parlais tout de suite de jeunes. Moi, j'ai un jeune, je donne plusieurs jeunes qui ont 18 ans, qui sont venus chez moi et qui reprennent. C'est-à-dire qu'on leur donne envie et ils bossent et tout. Et puis on leur donne envie, on leur dit, on va faire, tu peux créer,
et
tu peux
progressent.
Faire tout. Et progressent. Et surtout, c'est qu'ils reprennent. J'en ai un qui passe un concours de gendarmerie, j'en ai un autre qui est reparti en Espagne,
études,
etc. De refaire des études. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils passent 6 mois, ils passent un an, ils ont 18, 19 ans et tu leur donnes une pêche. Et tu leur donnes une pêche. Et en plus, quand tu dis accès à la culture, bah moi, je leur donne des livres. Je leur dis, traverse la rue. Pas pour aller chercher le boulot, mais traverser la rue, pour aller à les librairies.
Oui, et toi, ça, tu donnes à la fois une pêche et des livres. C'est-à-dire, tu nourris les deux côtés de l'homme. L'intellect et l'estomac.
Mais il faut donner sa juste importance au fait de s'assumer, d'avoir un métier, de pouvoir quitter les parents, le domicile des parents à un âge relativement jeune, d'être libre. Parce qu'un boulot, au-delà de son intérêt intrinsèque, c'est une émancipation. Donc tout boulot.
C'est une émancipation, ou si c'est un mauvais boulot, c'est une prison.
Vous dites ça depuis là où vous parlez avec vos exigences intellectuelles élevées.
Mais
il y a des gens pour lesquels s'émanciper, être libre, de décider de sa vie, d'avoir les moyens de vivre, c'est extrêmement important.
C'est
la dignité. C'est la dignité, quel que soit le boulot.
Mais il faut avoir une relation. Culture pour penser comme vous pensez, mais il y a des gens qui sont obligés. Je ne dis pas que des choses fausses. Il y a des métiers passionnants, mais il y a des gens qui sont obligés d'être dans des métiers qui sont coincés et que c'est pas libérateur. Nous... C'est une prison. C'est une prison d'une société qui enferme et qui ne libère pas. Je suis désolé. Il y a le côté le truc qui vous tombe dessus et c'est le formatage et c'est l'esprit de sérieux et c'est les gens qui savent et c'est pas là où vous voulez aller, mais c'est trop tard. Vous êtes dedans.
Quel que soit le métier. Et c'est une insertion dans un milieu social, c'est des relations sociales, c'est une utilité sociale et c'est une émancipation.
Bon, je vous mettrai pas d'accord là-dessus, non. C'est pas le but d'ailleurs dans les informés. C'est
peut-être qu'il y a un livre au lien qui libère.
Alors, pardon Xavier.
Je dis peut-être qu'ils vont écrire un livre au lien qui libère.
Ah oui, c'est une belle maison d'édition à deux plumes. On se retrouve dans un instant juste après le rappel de l'info à 20h20. Thomas Benesch, et on parlera de politique et on verra si Emmanuel Macron peut bénéficier de ces chiffres du chômage et de ces bons chiffres du chômage. Il est 20h20. L'info Thomas Benesch.
La France sort du silence face à la crise actuelle à Hong Kong. Le ministre des Affaires étrangères appelle toutes les parties à renouer le dialogue afin de trouver une issue pacifique et mettre fin à l'escalade de la violence. La police hongkongaise a encore fait aujourd'hui usage de gaz lacrymogène pour disperser des centaines de manifestants. Ils étaient devant un commissariat. Les contestataires du pouvoir demandent depuis plusieurs semaines maintenant davantage de démocratie. En Savoie, colonie de vacances écourtée pour une trentaine d'adolescents. Originaires de Barlin, dans le Pas-de-Calais, tous sont rentrés chez eux depuis dimanche dernier après que leur responsable a été mis en examen. On le soupçonne d'agression sexuelle sur l'une des jeunes filles du camp. Le suspect âgé d'une cinquantaine d'années est placé sous contrôle judiciaire. Le procureur de Gênes en Italie livre aujourd'hui l'information. Selon un rapport d'expertise, certaines parties du viaduc Morandi ont été mal entretenues pendant 25 ans. Cette révélation intervient un an jour pour jour après l'effondrement d'une partie de cet ouvrage. La catastrophe avait fait 43 morts. Elle avait 14 ans en 2001 et dit avoir été violée par le financier américain suicidé Jeffrey Epstein. Aujourd'hui, cette femme décide de déposer plainte contre Ghislaine Maxwell. Elle accuse cette femme, ancienne épouse d'Epstein, devenue assistante, de l'avoir recrutée, elle et d'autres jeunes filles, pour le compte du millionnaire. Aux États-Unis, Jeffrey Epstein est soupçonné d'agression sexuelle sur mineurs. Enfin, le tennis et la victoire du français Richard Gasquet au Masters 1000 de Cincinnati. Il bat l'argentin Federico Delboni 7-5, 7-6. Il se qualifie pour les huitièmes de finale de la compétition.
France Info.
20h, 21h. Les informés.
Nicolas Creusel.
Et le débat entre Jean-Michel Ribes et Judith Ventrop se poursuit même pendant le rappel de l'info.
D'ailleurs, on fera une petite édition pour qu'on éditera et qu'on donnera aux gens pour pas qu'ils soient frustrés
de vos propos
extrêmement brillants qu'on dit hors micro.
Jean-Michel Ribes, mettons-nous un peu de côté peut-être par rapport à ces chiffres du chômage pour voir si ça peut avoir des conséquences politiques intéressantes pour Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que après cette année compliquée avec les gilets jaunes, toutes ces personnes qui tous les samedis ont demandé sa tête, un changement de politique, bon, il y a eu les européennes qui ont montré quand même qu'il se maintenait grosso modo, mais qu'il y avait beaucoup de votes contestataires aussi avec la puissance de Marine Le Pen, enfin du parti Rassemblement National. Est-ce que là, on peut imaginer que le chômage, c'est le baromètre de la vie politique et que ça peut donner des jours heureux à Emmanuel Macron? Judith Ventrop, peut-être. Spécialiste, journaliste politique, vous avez un regard particulier.
Oui, Emmanuel Macron lui-même est conscient que la colère dans le pays est ancienne et profonde et que c'est pas les 17 milliards qu'il a distribués, ni même les mesures qu'il a prises et dont il prend soin de préciser à chaque fois qu'il en a l'occasion qu'elles mettront du temps à avoir de l'effet, qui vont changer ça. Xavier de Namur parlait tout à l'heure des gilets jaunes qui sont en fait des gens qui ne bossent pas quelques heures, qui ont des vrais boulots à temps complet, mais très mal payés et qui n'arrivent pas à faire face, notamment pourquoi, rappelez-vous, ils ne demandaient pas des augmentations de salaire, les gilets jaunes, à la grande surprise des gens de gauche cher. D'ailleurs, ils demandaient une pression, une baisse de la pression fiscale, une pression fiscale moindre. Or, de ce point de vue-là,
plus d'argent, tout simplement. Soit qu'on paye moins cher.
Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Chronologiquement, ce qui déclenche les gilets jaunes, c'est la surtaxation sur le carburant et leur revendication initiale de base, c'est moins d'impôts. Et qu'est-ce que l'État fait avec notre argent qu'est-ce que l'État fait avec notre pognon, disait Jacqueline Gourault. Et de ce point de vue-là, je finis juste là-dessus.
Vous m'avez pas répondu.
Oui, non, mais c'est parce que c'est la réponse. La réponse, c'est qu'est-ce qui fait que les gens en France n'arrivent pas à vivre de leur travail? C'est que l'État leur prend trop. Et de ce point de vue-là, du point de vue des dépenses de l'État, du train de vie de l'État, Emmanuel Macron non seulement n'a pas fait de progrès sensibles, il a même plutôt régressé. Il a annoncé qu'en ce qui concerne les économies, je pense par exemple à la diminution du nombre de postes de fonctionnaires, eh bien, il allait réviser ses ambitions à la baisse.
Oui, mais regardez, vous aviez Xavier de Namur qui vous parlait de sa sœur qui est infirmière. Si on supprime tous les postes, la fonction publique, c'est aussi supprimer des postes à l'hôpital.
Oui, médical, il y a deux problèmes spécifiques. Le problème des 35 heures d'une part et le problème du numerus clausus des médecins d'autre part.
Alors, Jean-Michel Ribes.
Moi, je crois que la popularité, elle est basée sur des analyses qui échappent totalement au rapport économique. La preuve, je crois que la popularité, ça aime les Français, c'est les personnages. Il y en a un qui a de la popularité, c'est Sarkozy.
On va en parler, justement.
Non, mais je veux dire, la popularité de Sarkozy, qui a 250, il peut fournir toutes les cuisines de France tellement il a de casseroles. Il fait des livres, c'est un personnage. C'est-à-dire que, pardon de parler un tout petit peu dans le métier, mais le personnage, le rôle qu'il a...
Mais quand il était aux affaires, il n'était pas très populaire.
Oui, non mais là, en ce moment, il n'était pas très populaire, il a quand même... Là, en ce moment, c'est un personnage, c'est-à-dire qu'il se bat, c'est quelque chose qui le rend populaire. Quand on est président de la République, quand on est aux affaires, c'est plus compliqué. Mais d'un autre côté, c'est un choix d'être président de la République. Et je trouve que, c'est pas grave si on est terriblement en baisse ou terriblement en hausse. Ce qu'il faut, c'est avancer. Mais je veux dire que la popularité n'est pas toujours liée à la réussite économique ou politique d'un homme.
C'est peut-être ce que se dit François Hollande, qui a initié quelques réformes et dont il n'a pas pu bénéficier des résultats. Certains disent que les résultats aujourd'hui
sur le front de l'emploi viennent aussi les réformes. Il y aurait un septennat pour François Hollande. Les choses auraient totalement été différentes quant à la réussite de sa politique.
Xavier de Namur, la popularité d'Emmanuel Macron, est-ce que ces chiffres du chômage, c'est enfin un peu de vert dans son univers politique, son horizon politique?
Je crois qu'il essaye, en tout cas, à travers les dépêches AFP, etc. Je pense qu'ils essayent de faire en sorte que ce soit une réussite ou qu'ils passent au vert. En réalité, comme disait Jean-Michel, il y a une grande part qui vient des réformes qu'avait fait un peu initier Hollande. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est dans ces réformes qui devaient donner le plus d'emplois, c'était le fameux crédit d'impôt compétitivité emploi, qu'a mis en place Jouguet et Macron lorsqu'il était secrétaire adjoint à l'Élysée. Oui. Donc, il est une partie responsable depuis le début. Ça a quand même coûté 100 milliards, cette affaire. Mmh. Alors, est-ce qu'on fasse ces 100 milliards d'euros, qui nous a plombé quand même un peu plus la dette et le déficit, est-ce qu'on a vraiment le travail, les emplois en face?
Est-ce que ça valait la peine, quoi?
Est-ce qu'on avait ça, puisqu'on n'a pas eu de contrepartie à ces 100 milliards dans les entreprises, etc. Est-ce que ça valait la peine, puisqu'à la sortie, on a eu quand même ce mouvement, alors je reviens sur ce mouvement des Gilets jaunes, mais c'est sur toute cette France périphérique où on a vraiment des gens qui vivent très mal. Et c'est ça qu'on a un décalage entre ce qu'on voit les chiffres, que ce soit sur la croissance, que ce soit sur le chemin à Paris, et la réalité du terrain dans les départements où moi j'habite, entre autres, dans Lot-et-Garonne, etc. C'est pas la même.
Sauf que la grande force des Gilets jaunes, c'est qu'ils ont occupé un terrain qui n'était pas occupé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de syndicats, il n'y avait pas de grande théorie politique. Tout d'un coup, ils ont occupé. C'est un peu les Christophe Colomb de la politique. Ils ont un truc et on n'a pas pu les attraper. C'est-à-dire que ce qu'ils demandaient, ça ne peut pas être résolu uniquement à une fiscalité sur l'essence. C'est tout d'un coup, on est aperçu qu'il y avait quelque chose, des gens qui étaient dans un mal-être, et ce mal-être n'était jamais pris en compte par les grandes théories politiques. Et c'est ça, à mon avis, qui fait leur force.
On va vous évoquer, Jean-Michel Ribes, Nicolas Sarkozy, qui revient sous les feux des projecteurs et qui est à nouveau aimé par les Français. On va en parler juste après l'info. Le rappel de l'info, puisqu'il sera demain aux côtés du président Macron lors des cérémonies du débarquement de Provence. C'est le prochain dossier des informés. À tout de suite.
France Info Météo, avec Gauthier, séjour, salon, chambre et dressing. Le mobilier pour toute la maison à retrouver dans nos magasins et sur gauthier.fr.
Élodie Calac pour les prévisions de Météo France.
Beaucoup de nuages demain, mais du soleil. Pour le sud-est, il brillera toute la journée au prix du vent, encore 70 km à l'heure attendue. Les températures partiront de 18 à 21 degrés le matin. Ça montera jusqu'à 28 degrés à Bastia, 32 à Montpellier, 33 à Marseille. Ailleurs, beaucoup de nuages, quelques averses en matinée, du vent, 13 à 18 degrés. L'après-midi, ça s'arrangera près de la Manche, de la Bretagne vers le sud-ouest, le centre, le massif central et le nord des Alpes également, avec de belles éclaircies. Des éclaircies aussi de l'intérieur de la Normandie vers la région parisienne et la Franche-Comté, mais toujours avec un risque d'averse. Et puis du nord à l'Alsace, là, ça restera plus nuageux avec quelques averses. Il fera 20 à 22 degrés près de la Manche, 23 à Paris, 24 à Angers ou Besançon, 26 à Valence et 27 à Toulouse.
Merci d'écouter France Info. Le retour des informés dans 3 minutes. Il est 20h30.
France Info.
De poids, ouvrez l'info.
C'est le retour de Romain Desaigues pour l'info.
Un instit déféré devant le parquet d'Épinal est placé sous contrôle judiciaire. Il s'est fait piéger par des lycéens qui se sont fait passer pour une mineure sur Internet afin de débusquer d'éventuels pédophiles. David Di Giacomo.
C'est d'abord un défi entre plusieurs lycéens des Vosges, réussir à piéger sur la toile des prédateurs sexuels. Sur un site de rencontre, ils se font passer pour une adolescente de 16 ans. Un internaute entame le dialogue et donne rendez-vous à la jeune fille au parc thermal de Vittel. Sur place, cet instituteur d'une cinquantaine d'années tombe sur les lycéens, il l'intimide pour qu'il ne cherche plus à contacter des mineurs, puis le dénonce à la gendarmerie. Une perquisition permet de découvrir plusieurs dizaines d'images pédopornographiques sur l'ordinateur de ce père de famille. Pour autant, son avocate affirme qu'il ne s'agit pas d'un prédateur sexuel, maître Nancy Rizacher.
Il reconnaît une addiction forte à la pornographie, mais la pornographie entre adultes. Et comme il y a de tout sur ces sites, oui, certaines mettaient en scène des mineurs. Mais en aucun moment, il n'a choisi de taper des mots-clés qui pourraient l'aiguiller sur des sites de jeunes.
Placé sous contrôle judiciaire, cet instituteur n'a pas le droit d'entrer en contact avec des mineurs. Il a l'obligation de se soigner. Son avocate précise d'ailleurs qu'il a entamé dès ce matin un suivi psychologique. Il sera jugé le 27 août prochain.
David Di Giacomo pour France Info. Un homme porte plainte contre des policiers pour torture aggravée. La vidéo de son interpellation vendredi à Saint-Ouen a été relayée sur les réseaux sociaux. Selon son avocat, les violences se sont poursuivies dans le véhicule des policiers. Il affirme avoir été étranglé, avoir reçu plusieurs coups de taser sur ses organes génitaux. L'IGPN est saisi. La grève aux urgences, 195 services touchés, chiffre fourni par le ministère de la Santé, assez proche finalement de celui du collectif Interurgence qui parle de 220 services. Le ministère ajoute que la ministre Agnès Buzyn fera des annonces France dès la rentrée. C'est du jamais vu depuis 10 ans. Le taux de chômage en France est à 8,5%, une baisse de 0,6 points sur un an. Toutes les tranches d'âge bénéficient de cette légère amélioration. La maison mère de Free, Iliad, ne confirme pas l'arrêt de la diffusion de BFM TV vendredi, comme l'a annoncé ce matin le groupe Altice, propriétaire de la chaîne. Le conflit oppose les deux groupes depuis plusieurs mois au sujet de la rémunération pour la diffusion des chaînes du groupe BFM et RMC. Et puis en foot, le vainqueur de la Ligue des Champions et celui de la Ligue Europa s'affrontent ce soir. C'est la Super Coupe d'Europe. Liverpool face à Chelsea et une Française au sifflet, Stéphanie Frappart. C'est une première pour une femme à ce niveau de compétition. Le coup d'envoi, c'est dans une demi-heure, juste après la seconde partie des Informés.
A tout à l'heure, Romain Desec, merci.
20h, 21h, les Informés.
Nicolas Creusel.
Et les informés du 14 août sont Judith Weintraub, journaliste politique au Figaro Magazine, Xavier de Namur, restaurateur et initiateur du printemps de l'alimentation durable, et l'homme de théâtre Jean-Michel Ribes, directeur du théâtre du Rond-Point. Jean-Michel Ribes qui nous prépare le retour de Palace, non pas à la télé, mais sur les planches. On en parlera en fin d'émission. Ce sera l'un des événements de la rentrée théâtrale. Allons parler de Nicolas Sarkozy et de sa popularité qui peut surprendre juste avant les infos. L'ancien chef de l'État sera demain aux côtés de son lointain successeur Emmanuel Macron pour les cérémonies du 75e anniversaire du débarquement de Provence. Les deux hommes s'affichent ensemble régulièrement. On se souvient d'ailleurs du plateau des Gaillères au printemps, c'était en plein pendant la campagne des Européennes et ça n'avait pas plu à Laurent Wauquiez. Le journal Le Monde parle d'une love affair, en gros ça les sert tous les deux, peu importe si c'est sincère ou pas, j'ai dit de 23.
Oui, j'adhère totalement à cette analyse. Nicolas Sarkozy reste le préféré de l'électorat de droite. Emmanuel Macron drague l'électorat de droite avec succès d'ailleurs. Donc il drague Nicolas Sarkozy. Il ne faut pas chercher midi à 14h. En plus, comme le raconte Nicolas Sarkozy dans son dernier livre Passion, Emmanuel Macron a l'art et la manière. Il raconte notamment comment le président de la République a fait envoyer des motards pour accompagner le cercueil de sa mère. C'est Nicolas Sarkozy qui raconte
cet épisode. Il a été touché.
Il a été extrêmement touché aussi que Brigitte Macron lui dise avoir toujours éprouvé de la sympathie pour lui.
Bien qu'on le flatte, Nicolas Sarkozy.
Il adore qu'on le flatte, voilà. Il l'avoue d'ailleurs dans le bouquin. Rappelez-vous, en décembre 2018, il y a eu un déjeuner à l'Élysée entre Macron et Sarkozy où on a appris ensuite que Sarkozy avait suggéré à Macron de revenir sur la défiscalisation des heures sup qu'avait abolie François Hollande en arrivant au pouvoir, chose qu'Emmanuel Macron a faite. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs Nicolas Sarkozy d'être parfois critique. Là, autre épisode, en février, cette manif contre l'antisémitisme, c'était une semaine après qu'Alain Finkielkraut s'est fait traiter de sale juif et de sale sioniste au cours d'une manif des Gilets jaunes. Et dans cette marche contre l'antisémitisme à laquelle participait Nicolas Sarkozy, il a dit que la France avait un problème d'autorité.
Oui, donc en fait, c'est un jeu un peu. Nicolas Sarkozy cherche à exister, en même temps, ne s'éloigne pas trop. Être à côté d'Emmanuel Macron, ça lui permet d'exister. Cette popularité de Sarkozy, ce succès de son livre, ça vous agace, j'ai l'impression, Jean-Michel?
Non, pas du tout.
Ah, vous disiez tout à l'heure que c'est incroyable avec les casseroles qu'il a derrière.
Quelles casseroles d'ailleurs? Parce que les casseroles, les diapartes, t'as beau les astiquer pour l'instant.
J'ai dit pas ça du tout. Non, non. Et puis je crois que son livre est très bien écrit et très bien. Non, je dis pas ça du tout. Je disais simplement qu'il en signe beaucoup. Et voilà, c'est tout.
C'est le syndrome Chirac? Les Français aiment les politiques quand ils sont éloignés des affaires?
Je sais pas. Vous savez, moi j'ai fait un opéra bouffe sur Nicolas Sarkozy, tellement je trouvais le personnage intéressant, qui s'appelait René l'Énervé. C'était un gros succès. Je me suis un peu attaqué dans la rue à cause de ça, mais j'aurais adoré qu'ils viennent, parce que c'était absolument pas méchant, c'est simplement le sarkozisme qui était pas uniquement Sarkozy, mais qui prenait toute la classe politique, et on en voit aujourd'hui le résultat. Non, pas du tout. Moi, je crois que son livre est un très bon livre et je suis content que ça marche. Pas du tout. Je dis pas du tout ça. Je dis simplement que la popularité, c'est un as de la popularité. C'est-à-dire qu'il a quelque chose. Et je crois surtout que ce que n'est pas, ce qu'a failli être, ce que n'est pas Emmanuel Macron, c'est que Sarkozy est un personnage. Et un personnage, les gens aiment, les Français aiment bien les personnages.
Alors peut-être donc, qu'Emmanuel Macron deviendra un personnage, parce qu'on voit, on ne m'enlèverait pas de l'idée quand même que les Français aiment bien les politiques quand ils ne sont plus aux affaires. Même François Hollande a des succès dans ses séquences, ses séances de dédicaces, alors que il a fini la battue des records d'impopularité.
A essayé de revenir, il a pris une grosse claque à la primaire, de la part des électeurs de droite.
Et aujourd'hui, il profite peut-être du désert à droite. Il n'y a plus Fillon, il n'y a plus personne, il n'y a plus Wauquiez.
Non, mais c'est cette, on parle de la popularité. Il y a deux popularités. Il y a la popularité de la politique et il y a la popularité du personnage. Mmh. Nicolas Sarkozy, c'est un personnage de roman, c'est tout. C'est-à-dire que ce qu'il dit, il saute, c'est pas quoi, il épouse, il divorce, il fait part de ses peines de cœur, etc. C'est quelqu'un qui est très vivant, très sensuel, très... Voilà, et qui... Alors après, sa politique, on peut être pour ou contre, c'est une autre histoire, mais il a réussi quelque chose d'incarner un rôle qui passe.
Xavier de Namur, votre regard sur ce succès de Sarkozy en librairie, 220 000 bouquins vendus, 40 000 rééditions programmées par son éditeur.
Non, mais moi je suis persuadé, tu sais, j'ai fait un film en 2012 qui j'ai sorti, qui s'appelait République de la Malbouffe, dans lequel c'est tout Sarkozy à l'époque sur l'histoire de la baisse de la TVA. Donc je filmais Sarkozy et je trouve effectivement, je suis comme Jean-Michel, je trouve que c'est un vrai personnage. Donc c'est un vrai personnage qui a, effectivement, du coup, qui attire les gens comme les personnages, qu'ils soient bons ou mauvais. Les Français adorent des personnages très clivants. Et Sarkozy est très clivant. Et ce qu'il y a, c'est que Macron, se rapprochant, restant avec Sarkozy, essaye aussi de faire du sarkozisme. Pas simplement dans sa politique, parce qu'il a repris, effectivement, sur les heures supplémentaires. Il a joué aussi beaucoup sur l'ISF et tout. Sarkozy, dès qu'il est arrivé en 2007 au pouvoir, lui, c'était fallait désinguer un peu l'ISF et tout. Donc il a, et Macron, il a aussi ses petites phrases un peu à la Sarkozy. Donc on a bien derrière une vraie popularité de Sarkozy. Parce que les Français, effectivement, comme on disait tout à l'heure, que ce soit Chirac, que ce soit Hollande, tous les autres qui sont passés, qui ont disparu de la scène politique, deviennent vraiment des personnages de la scène, comme dirait Jean-Michel. Mais ça dépeint sur Macron clairement, et ça dépeint sur Macron. Je crois pas que ce soit très très bon. Pour, tant que Macron est au pouvoir, on verra quand il n'y sera plus.
Par contre, je ne sais pas quel est votre avis de spécialiste politique, Judith Ventrop, mais de là à revenir sur la scène politique de manière active, entre être aimé parce qu'on vend 220 000 livres et être aimé pour être élu, c'est différent.
Moi, je n'y crois pas précisément pour ce que je viens de rappeler, c'est-à-dire l'échec cinglant qu'il a essuyé quand il a essayé de se présenter, quand il s'est présenté à la primaire de la droite.
Bon, oui, je crois que les gens, personnellement, je crois que les gens ne veulent plus, ils veulent bien l'avoir comme personnage, je crois qu'ils ne veulent plus l'avoir
comme
à
personne.
La tête de l'État. Comme
personne.
Eh bien voilà, on va clore ce chapitre politique dans ces informés, on en a beaucoup parlé. On va évoquer un sujet douloureux et qui nous concerne au quotidien, c'est la sécurité des ponts, puisque ça fait un an aujourd'hui qu'il y a eu le drame de Gênes en Italie, l'effondrement du pont Morandi, 43 morts. On en parlera juste après le rappel de l'info pour voir un peu si on a tiré des leçons en France de ce drame en Italie. Pour l'instant, 20h40, c'est le rappel de l'info et c'est Thomas Bénèche.
Environ 200 hectares de brûlés sur la commune de Montira, c'est dans l'Aude, au sud-est de Carcassonne. 150 pompiers sont sur les lieux et luttent contre les flammes. Un homme interpellé de manière musclée vendredi dernier par les policiers de Saint-Ouen dépose plainte aujourd'hui pour tortures aggravées. La scène filmée a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Les violences, selon le plaignant, se seraient poursuivies dans le véhicule des forces de l'ordre. Dans les Hautes-Pyrénées, un trailer de 41 ans retrouvé mort ce matin à Cotteray, originaire de Loire-Atlantique. Ce quadragénaire était porté disparu depuis lundi après-midi. Il était parti effectuer un parcours de 3 heures. Sa femme, ne le voyant pas revenir, elle avait donné l'alerte. En plein été, la grève des services d'urgence continue en France. 220 sont concernés, selon le collectif mobilisé dans cette action. Le ministère de la Santé en recense 195. Selon justement ce même ministère, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, doit annoncer à la rentrée de toutes nouvelles mesures pour répondre à la colère des professionnels. Une exposition à un niveau potentiellement mortel de monoxyde de carbone aurait provoqué la mort de l'ancien footballeur nantais Emiliano Sala. Voilà ce que révèlent aujourd'hui les enquêteurs britanniques. L'ancien joueur est mort le 21 janvier dernier dans la Manche après le crash de son avion. Il se rendait à Cardiff, club pour lequel il venait de s'engager. Le football, c'est ce soir la Super Coupe d'Europe. Elle va opposer dans une vingtaine de minutes maintenant Liverpool, vainqueur de la Ligue des Champions, à Chelsea, vainqueur de la Ligue Europa. Match arbitré par une femme, la Française Stéphanie Frappard.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Avec ce soir le restaurateur Xavier de Namur, Jean-Michel Ribes, directeur du Théâtre du Rond-Point, et Judith Ventrop, journaliste politique au Figaro Magazine. Nous sommes le 14 août 2019, il y a un an jour pour jour, 11h36 du matin, s'effondrait le pont Morandi à Gênes, en Italie, 43 morts, dont 4 Français. Un an après, on se demande où nous en sommes d'ailleurs en Italie, mais aussi en France, sur la sécurité des ponts. Un récent rapport du Sénat montrait que 7% des ouvrages dans l'Hexagone sont menacés d'effondrement. C'est quand même pas rien, 7%, on va en parler ensemble. Mais d'abord, écoutons le directeur de l'Union routière de France, Stéphane Lévesque, sur France Info. Il dénonce la politique budgétaire de l'État sur ces sujets.
Ces dernières années, les dépenses consacrées à l'entretien ont fortement baissé dans notre pays. Et d'ailleurs, dans les classements internationaux, la France, qui est en première position sur la qualité de son réseau routier, a reculé à la 7e position. La route, au niveau de l'État, des départements ou des communes, sont sujets chaque année aux aléas budgétaires.
Alors d'un côté, on nous dit au lendemain du drame de Gênes, on va vérifier tous les ponts et on va réparer tout ce qu'il faut réparer. Et de l'autre, on entend qu'il n'y aurait pas assez d'argent. Ça fait un peu réfléchir quand même, Xavier de Namur.
Alors, je pense que cette histoire de pont, c'est colossal. Ce qu'il faut savoir, alors il y a les ponts et toutes les infrastructures routières, mais ce qu'il faut comprendre, et là il y a un vrai point, et je crois que l'État n'a pas pris conscience de ça, il y a une douzaine d'années, lorsqu'on a eu la décentralisation, on a passé, l'État a fait d'ailleurs un boulot, il a fait une sorte d'état des lieux des ponts en France. Mmh. Et il a donné ça à tous les maires de France en disant, voilà l'état dans lequel on vous laisse, maintenant, à vous de vous en occuper. Alors les maires qui devaient faire tout de suite du job, bah, ils l'ont fait, mais sauf qu'entre-temps, en l'espace de, je dirais, ça fait peut-être 12 ans ou 13 ans, et entre-temps, bah, les ponts, ils se sont commencés à se délabrer, etc. Et là, il n'y a plus personne, parce qu'en fait, il y a eu deux élections, la plupart des maires ont changé, et aujourd'hui, les maires à qui on leur a donné cette compétence, normalement, de sécurité, des infrastructures et tout, bah, ils n'y connaissent rien. Et là, et aujourd'hui...
Ils n'ont pas forcément d'argent pour réparer les ponts, ça coûte très cher aussi.
Alors déjà, ils l'avaient, ils devaient le faire, mais avant, il y avait l'État, avait de l'ingénierie, ce qu'on appelle l'ingénierie locale, qui s'en occupait. Aujourd'hui, donc l'État a arrêté, s'est délesté de ce truc-là. Il y a un organisme, enfin ils ont regroupé les organismes pour ces choses, etc., dans un organisme de contrôle en fait qui s'appelle le CEREMA. Sauf que aujourd'hui, ça c'est payant et les maires, bah ils ont pas forcément, on leur a pas dit, vous savez, vous devez aller voir sous vos ponts, qu'est-ce qui se passe, etc. Ils savent pas. Alors. Il y a quelque chose qui devait être mis en place depuis plus d'un an. D'ailleurs, c'était la CEREMA, ce fameux organisme, devait mettre en place un document, un peu comme nous dans les entreprises, ce document d'évaluation des risques. On devait donner ça au maire, par exemple, qui devait regarder en leur disant, bah, vous allez voir, regarder les points qui vont pas, etc. Sauf, est-ce que c'est vraiment de la compétence des maires? J'en suis pas certain. Est-ce qu'ils sont, ils ont fait les ponts et chaussées? Est-ce qu'ils ont
généralement? On a un millefeuille. Il y a des ponts qui appartiennent aux communes, il y a des ponts qui appartiennent aux départements. C'est loin d'être simple.
Il y a la SNCF aussi.
Oui, mais ce que je veux dire, et je finis là-dessus, ce qui est effectivement, ce qui dépend du département, il y a encore des ingénieurs, il y a du monde. Il y a une dizaine, il y a une quinzaine d'années, il y avait à peu près 7-8 ingénieurs, etc., pour 2-3 cantons. Il y a plus ces personnels. Là, ils ont disparu. C'est-à-dire qu'on a, effectivement, ce soit sous Sarkozy et la continuité de Macron, on a supprimé tous ces postes de la fonction publique. Et donc, du coup, c'est là où se retrouve le plus principal problème, c'est bien les petites communes qui n'ont pas les compétences et pourtant, ils doivent s'en occuper.
Avec des maires qui ont les chocottes, hein, on entend quelques-uns qui témoignent, Judith Ventrob.
Oui, bah, évidemment, le rapport est absolument effrayant, mais il décrit une situation qui est loin d'être aussi claire que celle que vous décrivez. Justement, c'est le bordel. C'est le bordel en termes de tutelle qui est responsable. Qui doit s'occuper des ponts, qui doit avoir l'expertise.
Mais il y a des ponts qui sont vraiment dédiés à la commune, des ponts qui sont dédiés au département, à la région, à l'État, ça, tout le monde le sait.
Le rapport dit qu'on ne sait même pas combien il y en a. Louche, les 250.
C'est ça qui est fou, c'est ça, moi,
c'est ça qui
m'a frappé.
Jean-Michel Ribes, on n'est pas capable de dire.
J'ai entendu sur une de vos chaînes de radio que personne ne savait combien il y avait de ponts en France. C'est quand même assez intrigant, ça.
Oui, ça fait quand même.
Alors, avant de savoir ceux qui vont mal ou ceux qui vont bien, il faudrait savoir combien il y en a.
Mais cet audit a été fait quand même. Ils ont tous reçu ce document. Sauf que, encore une fois, dans les mairies, tu sais, les mecs, ils sont maires, c'est comme dans une entreprise. Alors, si t'as pas bien rangé tes dossiers en avant, etc., et que tu dis pas tous les ans, tu dois vérifier ton pont. Après, mecs, c'est ça. Alors, c'est pas pareil. On dit encore une fois, les compétences des régions et des départements ne sont pas les mêmes. Ils ont beaucoup plus de moyens.
Mais vous avez la situation de ce maire du Val d'Oise, de l'Oise, pardon, au sud de Compiègne, qui racontait sur France Info ce matin qu'il a un pont dans sa commune. Dessous, il y a des trains qui passent. Dessus, c'est une route. Donc, la route, c'est le département. Dessous, c'est le train. Et lui, il n'y peut rien. Et c'est la SNCF et le département qui se renvoient la balle. Oui. Et en attendant, le pont, il s'effondre. C'est surréaliste comme situation, quand même.
C'est vrai qu'il y a ce genre de situation surréaliste. Alors,
Ce qu'il faut savoir aussi, et ce qu'on oublie de dire, c'est que les ponts en France, qui ont été de conception, surtout les petits ponts, je ne parle pas des grandes infrastructures, parce que quand on voit le pont de Gênes qui va être fait par Rezzo Piano, il n'y a pas de problème, ça va tenir, il y a des moyens, il y aura des contrôles. Mais sur les ponts qui ont été réalisés au cours du début du 20e jusque dans les années 50-60, ce sont des ponts qui avaient été, surtout, je parle bien de tout ce qui est plutôt les milliers, les centaines, les dizaines de milliers de ponts qui se trouvent en province ou en région, ce qu'on veut, et ben ces ponts, ils n'étaient pas faits pour accepter. Quand vous avez un tracteur aujourd'hui qui fait, une fois chargé, si vous avez du lisier et tout ça, vous allez avoir 42 ou 50 tonnes de tracteurs qui passent sur le pont ou d'autres qui livrent des céréales. Mmh. C'était pas le cas il y a 50 ou 60 ans. Donc aujourd'hui, ces ponts subissent des pressions, des charges qui n'étaient pas conçues pour. Et il faudrait des ingénieurs en sous-offre qui viennent contrôler. Sauf que le problème du manque de dotation dans les départements ou surtout dans les mairies, c'est qu'il faut faire venir ces gens-là qui vont faire du contrôle et c'est payant. Donc alors, du coup, les maires le font pas.
C'est un problème. Julie Vintraube et puis Jean-Michel Rive, qu'on n'a pas encore.
C'est quand même un problème d'usage des deniers publics. On disait tout à l'heure que, en ce qui concerne la situation des infrastructures, la France avait régressé au 7e rang. Mais pendant la période où elle a régressé au 7e rang, ses dépenses publiques ont explosé tant et si bien qu'on est champion de l'Europe et champion de l'OCDE.
Alors.
Donc ça veut dire qu'il y a eu des sous et qu'ils n'étaient pas
au bon endroit.
Jean-Michel Rive, c'est quand même surréaliste. En plus, on est en train d'en parler aujourd'hui parce que s'il n'y avait pas eu le drame de Gênes, on n'en aurait peut-être jamais parlé.
Oui.
C'est fou aussi, ça.
Oui. Il faut savoir que les ponts les plus importants sont les ponts entre les gens. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les choses les plus dégradées, c'est la communication entre les gens. C'est-à-dire qu'il y a les ponts dont on parle, dont je ne connais pas vraiment la manière de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, quels sont les responsables, etc. Mais je crois que les ponts, à la différence des murs qui séparent, les ponts sont les choses qui rallient les gens. Et c'est quelque chose, c'est non seulement un ouvrage important, mais je trouve qu'on devrait en faire beaucoup plus, l'éloge, quand on peut faire des ponts entre les gens, quand on peut faire des ponts entre des dialogues, des gens qui peuvent... par le pont de la parole,
du raisonnement. Des gens qui se renvoient la balle pour ne pas s'occuper de ponts, hein.
Oui, non, donc mais moi je parlais des ponts de l'humanité.
J'ai bien compris votre parallèle, mais le pont, le symbole du pont, c'est quand même que certains se renvoient la patate
chaude. Le symbole du pont, je reviens sur Jean-Michel, il a raison, il y a une question de pont, puisque c'est l'Europe qui doit relier les gens.
Ce que tu viens de dire, oui. c'est une phrase très importante quand tu dis Jean-Michel, il a raison, tu as raison.
Oui, alors non, mais c'est pas ça.
Il le dit souvent, vous avez vu, en plus, c'est ça qui est bien.
Si tu regardes les billets de banque européens, les ponts avaient été à l'origine le symbole de l'Europe. Mmh. Tous les billets de banque en euros ont des ponts dessus. Donc c'était pour, effectivement, relier les gens. Et quand les ponts, que ce soit en France ou en Europe, ne sont pas entretenus, eh ben, c'est toute l'Europe qui n'est pas entretenue et qui se barre un peu en sous-sette. Et ça, c'est un problème.
Judith Vintraube, dernier mot.
Oui, c'est un problème que les fonds ne soient pas entretenus et que tant d'argent public soit dépensé à si mauvais escient. Oui, c'est un problème.
Et c'est un peu fou qu'on soit obligé de s'interroger sur les ponts. S'il n'y avait pas eu le drame de Gênes, on aurait continué à circuler sur des ponts sans savoir qu'on pouvait risquer de tomber à tout moment. Ça aussi, ça interroge quand même. Vous êtes d'accord ?
Bien sûr, et c'est... On peut remercier toutes ces victimes horriblement.
Pas remercier les victimes.
Mais... Non, mais je veux dire que il y a des morts qui servent à rien. Au moins ça servit à prendre conscience. C'est pas vraiment quelque chose qui doit nous consoler. C'est horrible, mais au moins on peut se dire ça.
Faut refaire effectivement des ponts cette fois-ci entre réellement les ex-ponts échancés, etc. Et puis c'est moi, je dis bien encore, ces maires de petites communes qui sont dans cette histoire les plus délaissées et qui ont le plus de ponts à s'occuper.
Vous admirez cette transition qui me vient à l'instant, je n'avais pas préparé. On va parler de petits ponts juste après le rappel de l'info, puisqu'on parlera de foot. Il est 20h50, Thomas Bénèche.
Plus d'une tonne de cocaïne, c'est la quantité de drogue saisie dans la nuit de lundi à mardi sur le port du Havre. Elle se trouvait dans un chargement de cœur de palmier. C'est la plus importante saisie de cocaïne en France cette année, annonce le ministre des Comptes Publics. Valeur estimée de la marchandise à la revente, 74 millions d'euros. Un instituteur vosgien d'une cinquantaine d'années piégé par des lycéens. En juin dernier, ces jeunes se font passer pour une mineure, lui donnent rendez-vous à Vittel. Leur objectif est de faire tomber d'éventuels pédophiles. Démasqué, l'homme est arrêté par les gendarmes qui découvrent chez lui des images pédopornographiques dans son ordinateur. Le suspect sera jugé à la fin du mois, le 27 août. Baisse du chômage en France au deuxième trimestre, moins 0,2 points, annonce l'INSEE. 8,5% de la population active est sans emploi. Le gouvernement s'est fixé comme objectif de ramener le taux de chômage dans l'Hexagone à 7% d'ici la fin du quinquennat. L'Assemblée nationale avait voté à l'unanimité cette mesure le 9 juin dernier. Deux mois plus tard, l'interdiction de la pêche électrique entre officiellement en vigueur ce mercredi. La technique
consiste à envoyer des impulsions électriques pour que les chalutiers puissent capturer des poissons. La pratique est peu courante en France, à l'inverse des Pays-Bas. En tennis, au Masters 1000 de Cincinnati, élimination de Benoît Paire face au Russe Daniil Medvedev. Qualification en revanche en huitième de finale de Richard Gasquet. Il a battu l'Argentin Federico Delbonis. Le score 7-5, 7-6.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
En ce 14 août, autour de la table de France Info ce soir, Judith Ventrop, journaliste politique au Figaro Magazine, Xavier Denamur, restaurateur, et Jean-Michel Rie, bien sûr, directeur du théâtre du Rond-Point. Parlons football pour cette dernière partie de l'émission, si vous le voulez bien, avec cette finale de la Super Coupe d'Europe ce soir entre Liverpool et Chelsea. On va pas parler du match, on va parler de l'arbitre. L'arbitre, c'est Stéphanie Frappard, nouvelle star de l'arbitrage français. Une fille qui arbitre un choc entre le vainqueur de la Ligue des Champions et le vainqueur de l'Europa League. C'est inédit et c'est finalement une belle révolution quand même pour le football, non ? Vous avez donné mieux.
Ah ouais, moi je trouve ça génial. D'ailleurs, Moki, on aurait peut-être pas fait son film au chiotte l'arbitre, hein, mais
à mort l'arbitre.
Chouette, à mort, oui, à mort l'arbitre. Pardon, c'est au chiotte, à mort l'arbitre. Non, et voilà, donc il aurait plutôt écrit ouais, super, parce que peut-être ça va adoucir aussi dans les stades. Ça va
pas
peut-être.
Sûr, pas sûr, tu crois non. pas Non, parce que je pense que depuis toujours, les femmes sont les arbitres du monde, de toute façon. Que ce soit chez soi, que ce soit. Vous savez, chercher la femme, c'est une personne dont on s'aperçoit combien elle est importante aujourd'hui en demandant la parité, etc. Mais je pense qu'en effet, la femme a un rôle d'arbitre sur beaucoup, beaucoup de... On ne va pas parler de politique et des femmes de président, etc. Et des femmes de roi, etc. Mais je pense que la femme arbitre depuis très longtemps beaucoup de choses.
Et si je redescends au niveau de la pelouse, cher Jean-Michel Rie, il semblerait quand même que les joueurs de football n'aient pas le même comportement lorsqu'ils sont sifflés pour une faute par une femme que par un homme. Oui, les femmes arbitres reconnaissent qu'elles se font moins bousculer, moins insulter,
ah oui, bah
que
c'est
du
bien.
Coup ça pacifie un peu
C'est ce que je pense aussi. Je pense que sur le terrain.
Oui, non, mais ce que je voulais dire simplement, c'est que de découvrir tout d'un coup qu'une femme, et c'est magnifique, peut être arbitre et peut séparer des équipes aussi prestigieuses que celles qui vont faire cette finale, c'est bien. Mais moi, je pense que c'est à longtemps. Mm-hmm. que les femmes décident, ça j'en suis persuadé.
Je vois Judith Ventrop qui lève les yeux.
Non,
elle décide depuis très longtemps dans toutes les
émissions. Elle décide même si vous avez raison ou pas.
Oui, mais ça, on en reparlera après.
Je suis très contente pour elle. Si ça peut, pendant un temps en tout cas, effectivement, améliorer l'ambiance et le fair play, tant mieux. Je suis toujours un peu gênée quand on affecte à des femmes des qualités et des vertus qui leur seraient propres, comme la capacité de calmer, d'apaiser. Je rappelle qu'il y a des femmes guerrières, il y a des mères de kamikazes, enfin, il y a vraiment des femmes belliqueuses. Hein, et là, même. C'est très bien partagé.
Il y a eu Jeanne d'Arc hein, quand même à un moment.
Oui, c'est pas uniquement du Lexomil.
Non.
Bon, écoutez, ça c'était pour Stéphanie Frappard, et puis pour ce foot féminin qui est quand même sacrément à l'honneur depuis le mondial et qui donne peut-être l'envie à plein de petites filles de faire du foot aussi, hein, qui casse un peu les codes et les clichés.
Et qui est aussi une industrie naissante et un moyen de faire du pognon qui sera exploité. Et tant mieux si des filles en profitent.
Bon, il nous reste quelques minutes, je voulais qu'on parle de la rentrée théâtrale de Jean-Michel Rie. Vous nous ressortez Palas, mais alors au théâtre et pas à la télé. Moi quand j'étais gamin, je regardais Palas avec Pierre Arditi, avec Corsan, avec Le Mercier. Qu'est-ce que vous nous faites là, la même...
Non, je ne ressors pas. C'est-à-dire que ce n'est pas une vieille conserve qu'on ramène. C'est quelque chose, c'est l'esprit de Palas. C'est-à-dire que c'est quelque chose, moi qui m'habite depuis que je l'ai fait, avec tous les gens avec qui je l'ai fait, et je dois dire, ça me donne beaucoup de joie.
Et c'est les mêmes textes ? Vous les avez retravaillés avec
Gouriot ? Non, il y a certains. Bon, vous savez, c'est comme quand Charles Aznavour fait ses adieux, il est obligé de rechanter la mama, sinon tout le monde n'est pas content. Donc il y a évidemment quelques, appelez-moi le directeur, etc., qui sont là. Mais avec Jean-Marie Gouriot, avec qui j'ai fait l'adaptation, on a fait probablement 40% d'inédits et on a retrouvé cet esprit qui nous a mis en joie et qui n'était rien d'autre que les histoires folles qu'on se racontait entre nous et qu'on mettait sur scène.
Et il y aura les danseurs, il y aura la musique, il y aura tout ce panache.
Danseurs, musique, tout, oui, c'est un peu les, si je faisais une comparaison un peu exagérée, c'est un peu les Monty Python ou Lido. Mmh. C'est-à-dire que c'est quand même totalement fou, c'est joyeux, ça emporte les gens et ça dit beaucoup de choses derrière la folie et la drôlerie sur notre petite société.
Et ça veut dire
dire aussi que la société n'a pas tellement changé. Non. Parce que la satire des années 90 à la télé, on
la retrouvera sur ça. C'était une satire sur les riches et l'argent et les pauvres. Comme vous voyez, je remercie tout le monde et je ne citerai personne de nous avoir permis de continuer sur ce sujet.
Qu'il y a encore des riches et qu'il y a encore des pauvres.
Non, mais c'est-à-dire que... attendez, je ne veux pas tout à coup... Pas là, c'est l'envers d'une leçon de morale, d'un message, etc. Mais c'est quelque chose, en effet, qui fait exploser certains clichés et qui, j'espère, réjouira les gens. Nous, on est en train de répéter ça, on est 25 sur scène, etc. Et je dois dire que, curieusement, c'est comme tout d'un coup, quand on boit un bon verre dans le restaurant de Xavier, on est heureux et ça repart aussitôt.
Ni souvenir ni nostalgie, ça vous donne envie d'y aller, Judith?
Ah bah, j'adorerais Palace, donc évidemment je vais y aller.
Ah, c'est gentil.
Xavier.
Ah bah, non, mais moi, je vais laisser passer les premières, parce qu'on ne sait jamais s'il y a des loupés. Mais je vais courir juste après, dès le mois d'octobre, quand je rentre de ma campagne.
C'est pas au Théâtre du Rond-Point, je tiens à le préciser, parce qu'on vous associe tellement au Théâtre du Rond-Point, Jean-Michel Rix, c'est au Théâtre de Paris.
Oui, mais je tiens à dire simplement que le Théâtre du Rond-Point, je le fais depuis 20 ans pour les auteurs et pour des auteurs vivants, et uniquement des auteurs vivants. Et on essaye de montrer qu'il y a de l'émergence. Et moi, je n'ai pas voulu occuper le terrain pendant 6 mois tout seul, donc je me suis écarté, j'ai laissé mon théâtre à sa vocation qui est de montrer des auteurs neufs.
Et puis comme on est effectivement dans la séquence promo, on nous annonce une tournée après, si ça marche bien à Paris, donc on croise les doigts pour tous ceux qui nous écoutent qui ne sont pas à Paris, il y en a beaucoup. Puis puisque c'est la minute promo, j'ai cru apprendre, Xavier Denamur, vous êtes dans Striptease.
C'est une nouvelle version qui a été décriée par deux fois des journalistes qui n'en avaient pas encore vu, et donc il y a un Striptease qui passe samedi, et donc on saura ce qui me fait vraiment courir. Est-ce que je suis vraiment un dur à cuire? Pareil que c'est Striptease.
Je ne l'ai pas vu, c'est dur. Qu'est-ce qui fait vraiment courir de Namur?
Ouais, bon, c'est samedi soir entre 21h et 22h sur RMC Story qui a repris cette série mythique.
Merci à vous trois. Merci Judith Ventrump. Je vous demande pas la une du Figaro Magazine, c'est
y
trop
y a pas
tôt,
de journal
ni du
demain.
Figaro, parce que demain c'est 15 août, il n'y en a pas. Merci à vous trois d'avoir participé aux Informés. Les Informés qui seront de retour demain, le 15 août.